Georg Büchner, Le scalpel, le sang, biographie générale, de Frédéric Metz, adapté par Irène Bonneau. Musique originale Quentin Sirjac. Lue par les élèves du Théâtre National de Bretagne et enregistrée le 11 juillet 2014 lors du Festival d'Avignon.
Frédéric Metz.
Georg Büchner, Le scalpel, le sang, biographie générale.
Et c'est quotidiennement que se produisent d'évidentes régressions. Et de même que maintenant, pour que ne demeure aucune trace extérieure de la Révolution, on replace calmement les pavés qu'on utilisa comme armes pendant les journées de juillet et qui, en certains endroits, étaient depuis restés là, entassés. De même maintenant, le peuple est ramené en terre, comme les pavés, à coups de semelles, jusqu'à sa place antérieure et après, comme avant, foulé aux pieds. Henri Heine, octobre 1832.
Ce livre a été écrit pendant les années 2009, 2010 et 2011 en Allemagne et en France.
Et c'est quotidiennement que se produisent en Europe d'évidentes régressions.
Une émission enregistrée le 10 juillet 2014 au Festival d'Avignon avec les élèves de l'École du Théâtre National de Bretagne.
Prologue 1. Maison d'arrêt de Darmstadt. Cellule numéro 32, 24 février 1837.
Le docteur Graf procède à l'autopsie du cadavre de Weidisch. La mort remonte à la veille vers 11h. Le prisonnier avait 46 ans.
Avant d'en venir à l'autopsie, je souhaite ajouter qu'aussitôt après notre arrivée auprès du blessé, nous adressâmes à celui-ci plusieurs questions. Le seul signe sûr que fit le blessé pour encore exprimer quelque chose fut celui de désigner à plusieurs reprises le mur se trouvant face à lui. À l'endroit vers lequel sa main se dirigeait, il n'y avait rien. Il ne se laisse donc pas décider s'il a voulu désigner l'inscription se trouvant sur ce même mur ou s'il a voulu exprimer autre chose.
Cette remarque initiale faite, le docteur Graf commence l'examen.
Les plaies qui sautaient tout de suite aux yeux étaient les suivantes. La plaie à la gorge de 4 pouces d'un côté à l'autre. La plaie à la partie inférieure de l'avant-bras droit. La plaie à l'extrémité inférieure de l'avant-bras gauche. Une plaie de section aux lèvres très écartées sur la partie intérieure du pied gauche, tout près de la cheville. Plusieurs petites plaies superficielles déjà sèches sur la partie extérieure de la cuisse droite, près de la hanche. Deux de ces blessures coupées révélèrent en profondeur des sugillations bien visibles.
Le chirurgien intervient à la scie. Graf poursuit l'examen. Le chirurgien procède à l'ouverture de la cage thoracique. Le cœur est sorti.
Le cœur révéla une assez importante formation graisseuse. Le ventricule gauche était vide. Le droit rempli de plusieurs cuillères à soupe d'un sang complètement noir et liquide.
La peau recouvrant l'abdomen est sectionnée. Les entrailles sont mises à nu, puis examinées.
On note le foie entièrement sain, le rein gauche très imbibé de sang, l'estomac contenant une quantité d'un liquide verdâtre, la vessie était vide et saine.
Hoffmann, juge criminel, dicte l'état des lieux. Il s'agit de cette même cellule numéro 32, la cellule du prisonnier mort.
Dans la pièce se trouvent les tessons d'un récipient en terre et la partie inférieure d'une carafe en verre tachée de sang. Sur la tablette des repas, plusieurs livres, une Bible, un Nouveau Testament en grec, la grammaire allemande de Grimm, une Bible en hébreu. On feuilleta tous ces livres, rien ne fut trouvé. Sur le sol, les plus fortes traces de sang sont couvertes de sable. Sous la petite planchette déjà mentionnée était suspendue la serviette de l'accusé, laquelle, particulièrement à la partie inférieure, était fortement tachée de sang et révélait même des traces d'excréments humains. L'inscription sanglante sur le mur est, que l'on ne put déchiffrer hier soir à la lumière des lampes, s'est révélée ce matin beaucoup plus lisible.
Prologue 2. Journal de Caroline Schulz. Zurich, Steingasse.
Le 3 février 1837. Comme il faisait très clair, dans sa chambre, j'ai donné à Georg des rideaux verts et aussi un oreiller en crin de cheval sous la tête, ce qui lui a fait du bien. Le 4. La fièvre a été plus forte. Pourtant, il n'y avait pas lieu de se faire du souci. Il a mangé un peu de soupe et des fruits et a assuré qu'il se sentait très bien dans son lit. Le 10. S'est levé l'après-midi et a voulu écrire. Afin qu'il ne se fatigue pas trop l'esprit, j'ai écrit la lettre à mon idée Enfin, il me l'a prise en hâte et a ajouté en dessous les mots « Adieu mon enfant ». Après que la lettre a été partie, l'idée m'a soudain pesé sur le cœur que Mina pourrait prendre ces mots pour des mots d'adieu, alors que la maladie ne semblait pas dangereuse le moins du monde. Le 11. Comme il avait beaucoup de glaire dans la bouche, parler lui était difficile et il s'exprimait souvent avec des gestes. À quelques déclarations qu'il a faites ce jour-là, j'ai remarqué que son esprit n'était plus entièrement au clair. Nous avons décidé de faire venir un médecin, à savoir Sean Line. Mais le malade n'a pas voulu en entendre parler parce qu'il ne se sentait pas si malade. Le 14, Sean Line est passé dans la matinée. Büchner a parlé avec lui très raisonnablement, mais vers 8 heures, le délire est revenu. L'une de ses visions qui revenait souvent était de croire qu'il était livré à la police. La nuit a été agitée. Il a parlé beaucoup, en français, et plusieurs fois s'est adressé à sa fiancée. Le 15, je l'ai trouvé très changé ce matin. Il parlait assez difficilement quand il avait tous ses esprits, mais dès qu'il délirait, il parlait sans aucune entrave. Il m'a raconté une histoire longue, cohérente. On l'avait amené hier, hors de la ville, et il avait avant cela tenu un discours sur la place du marché, etc., etc. Mais je lui ai dit qu'il était là, dans son lit, et qu'il avait rêvé tout cela. À midi, Sean Line est venu, que Büchner n'a pas reconnu. Dès que Sean Line est entré, il a dit « Mais quelle odeur !» Il s'est fait montrer les selles, qui étaient toutes noires et composées de sang épaissi. Il a examiné le malade et m'a dit « Tout concorde, c'est le typhus et le danger est très grand. » Le 16, la nuit a été agitée. Le malade a voulu sortir plusieurs fois parce qu'il croyait qu'il allait se retrouver en prison ou s'y croyait déjà et voulait s'en échapper. L'après-midi, le pouls était vibrant et le cœur battait à 160 à la minute. Les médecins ont abandonné l'espoir. Le 17, Mina a rendu visite au malade qui l'a reconnu. Il lui a parlé, mais on ne pouvait pas tout comprendre parce que sa voix était devenue plus faible. Il s'est fait rincer la bouche, il a pris des mains de Mina un peu de vin et de la confiture, a mangé le midi un peu de soupe, a nommé plusieurs de ses amis par leur nom.
Baker.
Weidisch.
Minigerod.
Zäuner.
Tout cela a été pour nous un rayon d'espérance, malgré les médecins qui n'y accordèrent aucune attention.
Prologue 3. L'attentat de Francfort, avril 1833.
Wilhelm Grüninger s'aperçoit que quelque chose d'exceptionnel se prépare dans Butzbach, autour de Weidisch, le recteur. Et peut-être dépassant Weidisch lui-même, et dépassant Butzbach même. Weidisch reçoit chez lui d'assez mystérieux visiteurs et plusieurs fois s'absente. Il envoie ça et là ses anciens élèves à travers la campagne et accomplir pour lui telle ou telle course mystérieuse.
En hiver, Weidisch me fit appeler un soir par qui, je ne saurais plus le dire. Quand j'arrive chez lui, je trouvais un étranger qui était assis à la table et qui mangeait. Weidisch servit du vin, nous en proposa et nous présenta l'étranger comme étant l'un de ses amis, l'un de ses anciens élèves.
Mais un peu plus tard, Wilhelm Grüninger apprend que l'étranger qu'il a vu n'est pas un ancien élève de Weidisch, c'est Frank, libraire à Stuttgart. Une insurrection se prépare dans tout le sud-ouest allemand et dans toute l'Allemagne même. Et Frank est venu voir s'il pouvait compter sur Weidisch pour faire que, le moment venu, au signal venu, la haute SE se soulève elle aussi.
Wilhelm Grüninger a un peu plus de 20 ans, il est tanneur à Butzbach. Il est allé à l'école jusqu'à sa 13e ou 14e année. Weidisch était son instituteur.
Un deuxième soir. Dans les derniers jours du mois de mars, on fait savoir à Grüninger qu'on aimerait que la porte de son atelier pour la nuit ne soit pas fermée à clé. Le lendemain, il y trouve caché dans un sac une réserve de cartouches et de balles qui a déposé pendant la nuit un autre élève de Weidisch. Il y a l'équivalent dans les cartouches de 2 livres de poudre et avec 150 balles de plomb.
Grüninger dissimule le tout dans un chaudron de son atelier. Quelques jours plus tard, l'insurrection paraît imminente. Weidisch explique le plan à ses élèves. Le déclenchement se fera à Francfort dans les tout premiers jours d'avril. Mais la révolution prendra ensuite dans l'Allemagne entière. Dès que la nouvelle du succès de l'insurrection sera venue de Francfort, on prend les armes ici, à Butzbach, à Gießen, partout.
Francfort, le 3 avril 1833. En début d'après-midi, à l'étage d'une auberge, on a réuni les étudiants. On leur a expliqué leur mission, l'attaque de la garde principale. Comme cri d'assaut, lors de cette réunion, on a convenu de...
Mut und Ausdauer!
Courage et ténacité.
10 minutes avant que ne sonne le coup de 9h30, quelqu'un dit « Messieurs, ça va être le moment ». Une jeune fille de l'auberge, alors présente dans la salle, s'évanouit.
L'étudiant Schuller, comme les 17 autres ses camarades, en quittant la pièce avant de sortir dans la nuit, donne un baiser à la jeune fille. Dans la rue, le major polonais qui commande l'assaut marche en tête, Schuller le suit de près. On marche prudemment. Schuller remarque les épaulettes à l'uniforme du major. Puis il le voit soudain qui accélère le pas devant lui. L'assaut est lancé. On court, on crie.
Vive la liberté ! Liberté, égalité ! Révolution !
On est au corps de garde. Le major saisit la sentinelle par derrière, essaie de la désarmer. Celle-ci donne l'alarme. On arrive derrière, au secours du major. Deux coups de baïonnette, la sentinelle s'écroule. Vous allez sortir, chien ! On brise les fenêtres du poste de garde, on tire au travers, les balles sifflent dans les airs.
Ernst Schuller monte aussitôt à l'étage où se trouvent les cachots. Arrivé devant, il s'apprête à défoncer la porte à la crosse. Mais la porte s'ouvre soudain d'elle-même et Schuller est face à une femme. Le geôlier est absent, il est au café. Sa femme, effrayée par le vacarme formidable de l'assaut, a déjà ouvert de son propre chef la cellule des prisonniers. « Sortez, vous êtes libres, vous êtes nos amis !» Deux d'entre eux refusent de sortir. Ils sortent finalement sous la menace qu'on les abatte.
« Pendant ce temps, on fait grand bruit pour faire s'attrouper. On a sorti les fusils des soldats et on cherche à les distribuer à la foule. Apparaît alors Mappes, fouleur de tissu, qui, croyant à un incendie, demande à l'un des insurgés « Où est-ce que ça brûle ?» Le camarade, en uniforme polonais, répond « Ce n'est pas le feu, mais la révolution. L'Allemagne se libère de ses princes. Puis, restez avec nous, prenez un fusil. » Mais l'artisan repose le mousquet qu'on lui a mis entre les mains et rentre chez lui.
Schuller est là. Avec le vieux major, il harangue « Venez, burgers citoyens, prenez des armes, battez-vous pour la liberté !» Schuller lui-même crie « Allez, debout, voici poindre le matin de la liberté allemande, aux armes !» Ses appels restent sans effet. Personne ne prend de fusil. Les gens passent, rentrent chez eux. Ou bien ils restent, ils regardent. Deux prendront des balles perdues.
Mais aussitôt la garde prise, une quinzaine d'insurgés s'est précipitée à la cathédrale. Ils arrivent vers 10 heures au pied de l'édifice. On défonce une porte à coups de crosse. On se précipite dans l'escalier qu'on monte en toute hâte. On arrive en haut.
Et dans la ville, soudain, le tocsin commence de sonner. Ce sont les cloches de la cathédrale. Des insurgés sont au clocher, ils sonnent à pleine volée. Mais aucun groupe d'émeutiers n'entre dans la ville au secours des insurgés, au secours de la révolution commencée.
Pendant ce temps, à la garde, on entend les pas d'un bataillon en marche.
Le bataillon s'approche et l'on reconnaît bientôt l'uniforme des militaires de ligne francfortois. Les soldats font feu, tout le monde s'enfuit, laissant au sol fusils, cartouches, poignards, on court. On se débarrasse au plus vite de son brassard rouge-noir-or.
Schuller voit tomber Scriba, un ami, étudiant à Gießen. Scriba reste au sol, inanimé. On le laisse pour mort. Tous s'enfuient. Schuller s'enfuit. Le poste est repris par les soldats.
Vers 10h15, l'insurrection commencée à 9h30 est terminée. La répression va commencer. Scriba, lui, est toujours allongé au sol. Scriba ferme les yeux, retient sa respiration, raidit ses membres. Il écoute. Il laisse passer tout près de lui les soldats. Quand ceux-ci ont le dos tourné, il se lève, il part en courant, il n'a rien. Il court dans les rues de Francfort, se perd, se retrouve, se perd, il n'a rien. Il trouve dans les rues des jeunes garçons de course disposés à l'aider. Il leur raconte tout, l'un accepte de le cacher chez lui pour la nuit. Scriba le suit. Il sauve sa peau.
Büchner, lettre à sa famille. Le 6 avril 1833. Büchner est alors à Strasbourg, étudiant en médecine. Il vient d'apprendre l'échec de l'insurrection à Francfort.
Si quelque chose peut encore aider dans notre époque, alors la violence. Nous savons ce que nous avons à attendre de nos princes. Tout ce qu'ils ont accordé ne leur a été arraché que par la nécessité. On reproche aux jeunes gens l'usage de la violence, mais ne sommes-nous pas dans un état de violence permanent ? Et cette loi, soutenue par une violence militaire brute et par la ruse insane de ses agents, cette loi est une éternelle et brute violence que l'on fait au droit et à la saine raison. Et je combattrai contre elle de la bouche et de la main partout où je le pourrai.
Le messager de S, 1834.
Le messager de S a deux auteurs, Büchner et Weidisch. La première rencontre eut lieu à Busbach en janvier 1834. Büchner a 20 ans. August Becker est l'intermédiaire entre eux. Ce jour-là, il accompagne Büchner. Lors de cette première rencontre, Büchner demande au pasteur des informations chiffrées sur le grand-duché de Hesse. Il a en vue l'écriture d'une Flugschrift.
Une brochure politique.
Un tract.
Qu'il destine aux paysans hessois.
Büchner, depuis octobre, poursuit à l'université de Gießen des études commencées en France. Il doit avoir eu connaissance de l'activité politique de Weidisch et de l'importance du réseau de celui-ci. Weidisch, quand Büchner le rencontre, a 43 ans.
En mars 1834, Büchner crée à Gießen, sur le modèle français, une section de la Société des droits de l'homme et du citoyen.
Die Gesellschaft der Menschenrechte.
Il s'agit d'un groupuscule clandestin destiné à l'agitation révolutionnaire. Büchner, quelques semaines plus tard, fonde une seconde section à Darmstadt.
Dans les derniers jours du mois de mai, Becker et Klemm, membres de la section de la Société des droits de l'homme de Gießen, portent le manuscrit du messager à Weidisch. Celui-ci fait des modifications. Il atténue, voire efface, les attaques de Büchner contre la bourgeoisie possédante et libérale. En revanche, asserre celle contre l'aristocratie, la bureaucratie, la cour de Darmstadt.
Büchner est furieux de ces modifications faites. Mais Weidisch seul dispose du pouvoir de faire imprimer la Flugschrift.
La brochure.
Le tract.
Et de la répandre en Hesse. Büchner doit céder. Le messager de Hesse est imprimé sur une presse illégale dans une cave à Offenbach. L'imprimeur s'appelle Karl Preller. Le nombre d'exemplaires n'est pas connu. On l'estime à 300.
Thomas Michael Mayer a revu ce chiffre. Entre 1200 et 1500, dit-il.
Dans la nuit du 31 juillet, Minig et Rodé et Schütz sont chargés d'aller chercher les Flugschrift.
Les brochures.
Les tracts.
Chez l'imprimeur. Le lendemain, 1er août, Minig et Rodé est arrêté à Gießen, à la porte de la ville. Il rentrait. On trouve sur lui un paquet d'exemplaires du messager. Il a été dénoncé par un certain Kuhl, membre de l'entourage de Weidisch, qui, depuis mars 1833, travaillait en réalité comme espion pour le gouvernement grand-ducal.
Les diverses organisations révolutionnaires tentent à l'automne de faire évader Minig et Rodé. Mais celui-ci, affaibli par le cachot et les interrogatoires destinés à lui faire donner des noms,
il ne les donne pas.
S'avère hors d'état.
Büchner est convoqué deux fois par la justice début 1835 dans l'affaire du messager. La troisième fois, il se méfie. Le 1er mars 1835, il quitte Darmstadt. Le 9, il passe la frontière française. Pour lui commence l'exil. Le 21 avril, Klemm, membre lui aussi de la Société des droits de l'homme, donne les noms de Becker, de Weidisch et de Büchner. Le 22, Becker est arrêté. Le 24, Weidisch. Un steckbrief,
mandat d'arrêt,
a été lancé contre Büchner. Mais Büchner est depuis plus d'un mois à l'abri. En France.
On sait que les conditions de détention au pénitencier de Darmstadt étaient extrêmement pénibles et que le juge chargé de l'enquête, Georgi, ne recula pas devant l'usage de la violence et des châtiments corporels. En 1837, les médecins de la maison d'arrêt déclarent Karl Minig et Rodé dérangé mentalement. Il était en prison depuis 3 ans.
Quelques semaines plus tard, le 23 février 1837, à l'aube, le geôlier trouve Weidisch dans sa cellule étendue sur le lit, les mains ensanglantées, des éclats d'une bouteille de verre au sol, mais vivant. Weidisch s'est ouvert les veines. On prévient aussitôt Georgi, le juge. Il faut 4 heures ensuite pour qu'un médecin pénètre dans la cellule de Weidisch. Alors Weidisch, quand le médecin s'approche enfin de son corps pour lui porter secours, est mort, bien sûr.
Avec du sang puisé à ses propres plaies, Weidisch a écrit plusieurs mots au mur de sa cellule.
Le 13 mars 1838, le juge Georgi reçut la croix de chevalier de première classe de l'ordre de Ludwig, distinction honorifique du grand-duché de Hesse.
La mort de Büchner, février 1837.
Au début de 1837, Büchner est installé à Zurich. Il vient d'y être reçu docteur à la suite d'une thèse écrite à Strasbourg. Büchner a 23 ans, il donne à la faculté de Zurich un cours d'anatomie comparée. Son cours est peu fréquenté, il n'a souvent qu'un seul étudiant. Büchner pourtant ne cesse de travailler beaucoup, immensément, jour et nuit.
Je passe mes journées avec le scalpel et les nuits avec les livres.
Büchner, toujours, a préféré au microscope la dissection et l'ouverture des corps. Son domaine est la zootomie, anatomie dissectrice. Sur sa table, divers poissons, amphibiens, batraciens, Buchner enfonce la lame dans les corps humides et les ouvre. Dans l'intérieur des corps, il suit le tracé des chemins nerveux, observe les départs, les ramifications, les partages, remarque les symétries ou les sauts. 40 ans plus tard, un étudiant se rappelait encore la joie de Buchner, à qui il avait ramené un exemplaire de crapaud accoucheur. En mars, Buchner écrit à Mina :
Je suis aussi bien réglé qu'une pendule de la forêt noire. Est-ce que tu apprendras d'ici Pâques à chanter des chansons populaires si cela ne te fatigue pas ? On n'entend ici aucune voix, le peuple ne chante pas. Je suis de plus en plus proche du peuple et du Moyen-Âge, mais j'y vois de jour en jour plus clair. Eh, pas vrai ? Tu les chanteras, ces chansons ?
Buchner, à ce moment, a le projet de quitter la chambre qu'il occupe, dans la rue si obscure. Fin janvier, il note sur un morceau de papier l'adresse d'une chambre à louer dans un village voisin. Il la visite, ce qu'il rapporte à Mina dans la lettre du 27 janvier.
La maison n'est pas loin du lac. Devant mes fenêtres, l'étendue d'eau et de tous côtés, les Alpes. Comme un amas de nuages étincelants de soleil. Tu viens bientôt ?
3 semaines plus tard, Buchner est mort. On a supposé qu'il s'était inoculé la maladie en disséquant. La lame du scalpel a glissé de la peau humide et flasque d'un poisson, a ripé sur celle sombre, rugueuse, verruqueuse d'un petit crapaud accoucheur. Elle entre dans la sienne. Mais ce qui entre à cet instant dans le corps de Buchner, apporté par la lame, est en réalité une bactérie à gramme négatif de la famille des entérobactéries, du genre des salmonelles. On sait aujourd'hui comment la maladie incube, prend, puis s'installe et diffuse. Après une phase transitoire d'une dizaine de jours correspondant à l'incubation et durant laquelle les salmonelles se multiplient dans les ganglions mésentériques, vient la phase septicémique. Par l'intermédiaire de la lymphe, le germe, depuis la paroi intestinale où il s'est d'abord installé, se répand dans le sang. Au commencement de cette phase, on observe une série de troubles mineurs.
Maux de tête.
Insomnie.
Vertige.
Fièvre montant puis se tenant en plateau à 40 degrés Celsius sans accélération du pouls.
Rate grossie.
Possible saignement de nez.
Langue blanchâtre.
Immense douleur abdominale.
Diarrhée franche, aqueuse.
Abdomen augmenté de volume et tendu.
L'acmé se produit au milieu de la 2e semaine d'évolution. Apparaît alors sur le thorax et l'abdomen la roséole typhique. Il s'agit de taches ou de papules roses, discrètes. S'ajoute à ces symptômes un état de stupeur, d'abattement extrême, typhus et de délire. Puis une puanteur extrême commence à se dégager du corps du malade et de ses excréments, car ses intestins tuyaux trigonflés sont en train de crever.
Dans cette petite chambre où Buchner, le 19 février, 4 jours avant Weidisch, meurt, étouffé par la fièvre, emporté par les délires, se trouvent plusieurs manuscrits dont aucune des personnes présentes autour du corps dans la chambre n'a encore vraiment idée. Il y a Léon Selena au propre, et puis les fragments du Lens et du Voitsek. Caroline Schulz, dans son journal, écrit
« C'était dimanche, le ciel était bleu et le soleil brillait, on avait renvoyé les enfants, tout était still, silencieux. » Dans la maison, et still, silencieux, dans la rue. Les cloches sonnaient. Mina et moi étions seules, assises dans l'intimité de ma petite chambre. Nous savions qu'à seulement quelques pas de nous se trouvait un mourant.
Darmstadt, le 13 juin 1835. L'individu dont le signalement figure ci-après, Georg Buchner, étudiant en médecine originaire de Darmstadt, s'est soustrait en quittant son pays à l'instruction judiciaire concernant sa participation probable à des activités relevant de la haute trahison. En conséquence, les autorités de tous les États sont requises de s'assurer de sa personne et de le faire conduire sous bonne escorte au siège de l'autorité sous-signée. Konrad Georgi, juge d'instruction.
Buchner, étudiant à Strasbourg et à Gießen, la Société des droits de l'homme.
La première association républicaine de la monarchie de Juillet fut la Société des Amis du Peuple. Le spectaculaire procès des 15, en janvier 1832, la fit connaître. Blanqui est sur le banc des accusés. Il utilise le temps de parole qu'on lui laisse pour prononcer une diatribe violente, marquante.
Messieurs les jurés, je suis accusé d'avoir dit à 30 millions de Français, prolétaires comme moi, qu'ils avaient le droit de vivre.
La Société des droits de l'homme, elle aussi, s'est constituée à Paris dès 1830. À ses débuts, elle regroupait des républicains modérés et radicaux. Mais les radicaux s'imposent assez vite. C'est la doctrine égalitaire qui est défendue. Quant à la méthode préconisée, c'est l'insurrection.
À Strasbourg, la Société des droits de l'homme savait pouvoir compter sur 5 à 600 ouvriers, la plupart travaillant à la manufacture de tabac. Elle était aussi implantée dans les casernes de la ville. Mais les plus enragés étaient les étudiants en médecine qui réclamaient le régime de 93 avec la loi agraire et poussaient à l'insurrection.
Sur une maquette du vieux Strasbourg, on voit la maison du pasteur Yeglé, rue Saint-Guillaume, où loge Büchner de novembre 1831 à juillet 1833. Dans la même rue, l'Académie, où il suit ses cours de médecine, et, avec, toute proche, la caserne Saint-Nicolas. Enfin, juste de l'autre côté du canal, l'imposante manufacture de tabac.
À l'automne 1833, de retour en Allemagne pour y poursuivre ses études, Büchner fréquente surtout Hermann Trapp et August Becker. Trapp est un ancien camarade de classe. En juin 1830, encore au lycée, au cours d'une visite du grand-duc, il avait crié « Péréate, Péréate, mais qu'il crève, qu'il crève !»
Et puis, il y a August Becker. À Gießen, Becker passe pour Faulenzer et Tagedieb, fainéant, oisif, voleur de jour, désœuvré, et pour un génie tournant mal et se gâchant, parce qu'il sort, faute d'argent, sans veste ni manteau, vêtu seulement d'une vieille chemise russe usée et d'un béret noir en velours. Il arbore une barbe anti-bourgeoise, rousse, et lui descendant jusqu'à la poitrine. Il marche dans les rues, un épais gourdin à la main. Il est surnommé en ville Der Rote Becker, Becker le Roux, Becker le Rouge, sans doute à cause de sa barbe, interminable et rousse. Ensemble, Büchner, Becker et Trapp fondent à Gießen en mars une société des droits de l'homme, la première d'Allemagne.
Interrogatoire d'August Becker, 1837.
Dans les brochures précédentes, il était question du congrès de Vienne, de la liberté de la presse, des ordonnances du Parlement et d'autres choses semblables, des choses dont les paysans ne se soucient pas tant ils demeurent occupés de leur détresse matérielle. Il faut bien le reconnaître, malgré toute la préférence qu'on peut avoir pour eux, qu'ils ne sont accessibles par aucun côté, sinon par leur bourse. C'est cela qu'il faut utiliser. Il faut leur montrer et leur prouver, chiffres à l'appui, qu'ils font partie d'un État dont ils ont apporté la plus grande part du fardeau, pendant que d'autres en tirent le profit, que l'on prélève la plus grande part de l'impôt sur leur propriété, qui leur coûte à travailler tant d'efforts déjà, pendant que les capitalistes s'en sortent sans y laisser un sou. En regard des questions matérielles, les revendications libérales paraissaient à Büchner tellement mesquines. Il disait souvent que l'oppression matérielle qui pesait sur une large part de l'Allemagne était tout aussi triste et honteuse que l'oppression intellectuelle et, à ses yeux, que tel ou tel libéral ne pût imprimer ses pensées était moins tristant et de loin que le fait que plusieurs milliers de familles ne pouvaient avoir assez de pommes de terre pour remplir leur assiette.
Clem, lui, résumait ainsi la doctrine de la Société des droits de l'homme de Gießen.
La révolution devait commencer par une guerre contre les riches. Toute richesse est le bien commun, voilà ce qui était enseigné.
Büchner considérait qu'une révolution, seulement libérale et bourgeoise, n'avançait à rien. D'après son frère...
Sa profonde pitié envers les souffrances du peuple et l'acuité et la justesse de son regard lui avaient fait déjà comprendre à l'époque que ce qui serait en jeu dans les tempêtes de l'avenir ne serait pas une réforme des lois, mais une réforme de la société.
D'après Becker, Büchner considérait comme une folie les dernières entreprises révolutionnaires, en particulier l'attentat de Francfort, déclenché par une minorité de républicains.
Büchner estimait que si quelque chose de semblable venait à se reproduire, alors il fallait s'assurer la participation du peuple et s'il n'était pas possible d'obtenir celle-ci, il fallait abandonner l'affaire. Il disait souvent que si les libéraux parvenaient à instaurer une monarchie ou une république sur toute l'Allemagne, nous aurions ici, comme en France, un aristocratisme de l'argent et qu'il valait mieux laisser les choses en l'état. La cause de la méfiance de Büchner résidait dans l'enseignement qu'il avait tiré de ce qui s'était passé en France en 1830. Il avait compris que la bourgeoisie serait prête à trahir sans délai les intérêts du peuple aussitôt que les siens propres seraient assurés. Il n'oubliait pas la manière dont la France bourgeoise avait fait tirer sur les ouvriers à Paris et à Lyon.
Témoignage d'un étudiant de l'université de Giessen.
Pour être franc, ce Georg Büchner ne nous était pas sympathique. Il portait un haut de forme très grand qui lui tombait toujours profondément sur la nuque. Il avait en permanence cette mine qu'ont les chats quand ça tonne. Sa manière de se tenir à l'écart fut interprétée comme de l'orgueil et puisqu'il était notoire qu'il était impliqué dans des menées politiques et qu'il avait une ou deux fois laissé entendre des déclarations révolutionnaires, il arriva, et pas rarement, que l'on s'arrêta le soir de retour de la taverne devant chez lui et qu'on lui cria un vivat ironique « À l'abolitionniste du commerce d'esclaves, à Georg Büchner, longue vie !» Il faisait comme s'il n'entendait pas les hurlements, bien que sa lampe brûlât et montrât qu'il était chez lui.
Weidisch à Butzbach.
L'école de Butzbach, où Weidisch, depuis 20 ans, est instituteur, est un établissement d'enseignement élémentaire. En 1833, l'école accueillait 350 élèves, garçons et filles. Weidisch en est devenu le directeur en 1826. Il est également pasteur, il est parfois en chaire à l'office du dimanche. Weidisch acquiert auprès de ses élèves un dévouement presque illimité. Ils sont compagnons boulangers, maîtres menuisiers, tanneurs et fabricants de glu, apprentis mécaniciens, fabricants de bas, ceinturiers, etc. Ils ont 20 ans, à peine plus. Ils sont vifs et joyeux, ils chantent, ils s'entraînent à l'escrime et bientôt, ils feront la nuit des marches secrètes, iront de village en village et derrière les volets des maisons glisseront des Flugschrift.
Des brochures.
Des tracts.
En secret.
Je me souviens qu'un jour, j'avais perdu mon abécédaire du temps que j'allais encore à l'école chez le cantor Schimmel. Je devais avoir 6 ou 7 ans. J'en étais tout triste et je pleurais lorsque Weidisch me vit. Il me demanda ce qu'il me manquait. Et après que je lui eus exposé la cause de mon chagrin, il donna de l'argent à un autre garçon et me fit parvenir par lui un nouvel abécédaire.
Il nous apprit aussi à dessiner et acheter pour nous à ses frais les planches à dessin et parfois même le papier.
Après avoir chanté, il nous lisait régulièrement des extraits des œuvres de Schiller ou quelque chose dans ce genre. Il me faisait toujours passer les revues qui avaient paru pour que je les lise.
En 1831, il a offert presque toute sa fortune aux réfugiés polonais.
Il encourageait et approuvait toujours le côté révolutionnaire qui, par nature, était inhérent aux jeunes.
Weidisch fut l'un des seuls parmi tous les cultivés qui ne désapprouva jamais ma barbe.
Le messager de S.
Au mois d'avril 1834, Becker et Klemm portent à Weidisch le messager de S, le texte de Büchner. Réaction de Weidisch.
Avec de tels principes, pas un homme honnête ne supportera de rester avec nous.
Büchner était très mécontent de cette remarque et dit que ce n'était pas difficile d'être un honnête homme quand on avait tous les jours de la soupe, des légumes et de la viande sur sa table.
Büchner était furieux des modifications auxquelles Weidisch avait procédé sur les textes. Il disait qu'il avait précisément supprimé les choses auxquelles il accordait le plus d'importance.
Alors il a été d'usage longtemps d'en vouloir à Weidisch. Impardonnable qu'il ait osé retoucher des phrases qui étaient de la main de Georg Büchner même. Si la position politique de Weidisch n'est pas à l'abri de variations et de repentirs souvent troubles, jamais tout à fait assumés, il serait pourtant excessif de vouloir les ranger parmi l'opposition libérale, bourgeoise et parlementaire et de l'opposer, depuis cet endroit, au Büchner près le peuple. Weidisch, lui non plus, ne se paie pas de discours. Il veut la révolution, lui aussi. Il n'est pas dupe des mensonges et promesses du pouvoir en place. Il agit, il est prêt à la violence, il rassemble. Il sait commander, il sait trouver de l'argent. Il organise, il installe, il fonde, il connaît 1000 gens, il vit parmi eux. Alors, certes, quelque chose d'irréconciliable sépare Büchner et Weidisch. Büchner pense, dans ce milieu intellectuel radical venu de France où bientôt va naître, quelques 5 années après sa mort, l'idée communiste. Pendant ce temps, Weidisch rêve encore vaguement, comme à l'envers de l'histoire, à un empereur germanique qui rendrait à l'Allemagne son unité sainte. Pourtant, dans leur rapport au peuple, il serait court d'opposer une sensibilité absolument indéniable du côté de Büchner,
qui en 1836 écrit Wojciech,
à une insensibilité du côté de Weidisch. C'est Weidisch qui passe sa vie parmi le peuple et les enfants du peuple, qui lui consacre à l'école, hors de l'école, avec la musique, la gymnastique, l'histoire, les rêves, les voyages, la totalité de son temps, de sa vie. Weidisch donne au peuple sa vie. Nous parlons ici de sa vie, du temps de toute sa vie, pas même encore de sa mort. Pas Büchner, écrivain.
petit cri des longues queues qui arrivent toujours en bande sur un même arbre isolé, un pin. Et chacune a son petit cri. Et la somme de ces petits cris séparés semble remplir l'arbre, lui donner un son général. Toutes les petites voix, morales, s'accrochant à un récit, sont tenues ensemble, comme ce son multiple et foui, montant aussitôt de l'arbre où la bande est entrée. Faire voir l'arbre et donner à entendre comme il se met à parler.
Ou bien se montrer, une fois, comme ici, claqué dans les mains, et que la volée s'éparpille à l'aveugle, comme jetée en vrac à travers le ciel.
Ce livre, en installant et montant toutes ces phrases les unes à côté des autres, plusieurs centaines à la suite, en les faisant se toucher, se frotter entre elles, se cogner, en rapportant les thèses qu'elles disent scrupuleusement, méthodiquement. Ce livre veut faire que s'entende le murmure des voix humaines multiples, ce murmure qu'elles font toujours quand il s'agit de rapporter un événement, grand ou petit, le murmure moral qu'elles font en le racontant, en le commentant, en l'interprétant, en le glosant. Le petit murmure ténu, tenace, ou le gros murmure lourd, amplifié, qu'elles font entendre sur lui, inévitablement, toujours.
Viens, ma conscience. Allez, viens, ma poulette, viens. Voilà du grain pour toi.
Et la même chose sur une vie. Amphigourie, glose, paquet de commentaires, partage du bien et du mal, distribution des saluts.
Les multiples voix, les petites intonations, les subtils accents, tous ces airs que prend la parole humaine racontant, disons même la parole racontante humaine. Par exemple, celle qu'on vient d'entendre parler, ou qu'on entendra parler encore au sujet de Weidisch, à l'arrière des phrases écrites, mais audible autant qu'elle, celle donc qui explique et commente si Weidisch a eu raison, s'il a eu tort, devant l'histoire même.
Et si alors sa mort vaut...
Non, et Büchner surtout, pour savoir s'il renie, s'il ne renie pas.
Si donc il a vécu dans le sens de l'histoire, ou au contraire à son rebours soudain, a trahi, s'est aveuglé, s'est trompé. Ou au contraire, a soudain compris, a tout vu, etc.
Il faut voir un peu alors l'effort admirable de chacune des petites voix dans l'arbre pour faire chaque fois le plus beau, le plus déchirant récit, le plus parlant récit, le plus probant récit. Celui étincelant dans le meilleur acier, la plus violente lumière. Et il faut voir un peu la joie prise à faire les condamnations les plus belles, à faire les saluts les plus beaux.
Les vivants et les morts. Donner à quelques morts depuis ici un récit, un salut.
Mais Danton quand même, il était plus... Non mais Danton n'était pas aussi... Et s'il n'y avait pas de héros?
Le 24 mai 1834, le cadavre de l'assassin Johann Dies est transporté du pénitencier de Marienschloss jusqu'à l'Institut d'anatomie de la faculté de Gießen. Johann Dies avait poignardé sa maîtresse en 1821, près de Darmstadt. Il est l'un des trois modèles, qu'on suppose, au Voïsec de Büchner. On apprend que le département d'anatomie de Gießen, par contrat, recevait les cadavres des condamnés à mort, des duellistes, des prisonniers de lourde peine, mais aussi ceux des suicidés, des noyés inconnus, des vagabonds inconnus et de tous ceux d'entre les plus pauvres qui n'avaient pu laisser à leur mort assez d'argent pour avoir une sépulture. Que Büchner, alors étudiant à Gießen, est précisément participé à l'autopsie ou à des dissections sur le cadavre de Dies au théâtre anatomique, n'est pas prouvé.
Büchner avait une certaine affinité, intimité avec la fièvre. Il ne la détestait pas. La fièvre est l'état de la brûlure et du désir enflammé et de la peur. Mais elle est aussi, pour Büchner, l'état de l'écriture. Car pendant ces exactes mêmes semaines où monte la pression policière, Büchner écrit son Danton.
J'écris dans la fièvre, mais ça ne nuit pas à l'œuvre, au contraire.
Alors Büchner recherche la fièvre. Il donne ce trait à Lenz.
Lui aussi avait l'espoir secret d'une maladie.
Début février 1837, enfin, c'est pour Georg Büchner la fièvre ultime. Un beau plateau de température à 40 degrés Celsius, long, vaste, ouvert sur les visions, sur les apparitions, sur les présences impossibles.
Machine céleste, les étoiles ou l'arc-en-ciel, machine alpestre, le beau lac avec nuages, machine qui se couple avec celle de son corps, Le délire code et recode à sa guise. Il fait couler, puis coupe, ne cesse d'effectuer le couplage de flux continu et d'objets partiels essentiellement fragmentaires et fragmentés. Dans le délire, la parole est sans entrave.
Mais cette fois, c'est une fièvre brutale. Nervenfieber.
Les nerfs. Les nerfs ont toujours été une préoccupation première, essentielle de Büchner. Il a consacré sa thèse à ceux du barbeau. Il suit leurs ramifications, leur chemin dans la chair des poissons qui les ventrent. Il les classe par paires et en reconnaît les correspondances, les variations d'un règne l'autre, d'une espèce l'autre. Il sait que se joue là, dans le circuit, dans l'unité et les multiplicités, quelque chose d'essentiel pour la vie. Les nerfs ou la fièvre, les sensations séparées, distinctes, codées, ou leur fusion fébrile, brassier indiscernable, fleuve. Les sensations comme messages venus du dehors, transmises suivant les lignes, les fils nerveux, impulsions galvaniques, électriques qui courent au centre de traitement et de commandement, ou la perception une d'un corps. Le classement et la maîtrise d'une fièvre et d'une forme, l'excitation ou le désir, l'astrie ou la fuite, la discipline ou la mort.
Visite à Strasbourg, Pâques 1834.
Le bref séjour de Büchner à Strasbourg dans la première moitié d'avril 1834 coïncide avec l'un des sommets de l'agitation politique de la monarchie de juillet. La grève a pris dans Lyon le 9, des barricades sont dressées et l'armée tire sur les ouvriers. 342 morts, 600 blessés. Par solidarité, des grèves se déclenchent, se propagent, tiennent à Grenoble, Marseille, Saint-Étienne, Épinal. La loi contre les associations entre en vigueur le 10. La Société des droits de l'homme proclame la résistance à la loi.
Büchner et son ami Alexis Mouston, le 11 avril, au milieu de l'immense agitation politique, montent au clocher de la cathédrale de Strasbourg.
Pendant un violent orage, Büchner me dit « Veux-tu que nous montions au clocher ?» Et sitôt dit, que fait ? Nous voilà dans ce campanile féerique, sous la voûte des huit piliers, où la grêle entrait par trois ouvertures, se croisant au milieu, avec des coups de vent formidables qui faisaient frémir les colonnes, comme des cordes d'harpe. Et jetait parfois des sifflements aigus entre les barres de fer. Puis nous montons dans la flèche. Nous descendîmes mouillés comme des hirondelles.
Portrait d'August Becker.
Pendant l'été 1834, le protégé de Weidig, August Becker, couche chaque soir chez Büchner.
C'est un gaillard qui a toujours mené une vie dépravée et dissolue et qui encore maintenant vit en Suisse comme communiste.
C'est un homme qui a utilisé Weidig et son entourage pour se faire entretenir.
Si on allait au café, ce qui est arrivé avec moi, il bafferait et picolait sans demander qui payait. Il fumait sa pipe en toute oisiveté et s'il parlait, c'était pour faire une mauvaise plaisanterie.
J'ai toujours considéré l'étudiant Becker comme l'ombre inconditionnelle de Weidig. Ou bien, si je puis me permettre de prendre Weidig pour une certaine sorte de Don Quichotte, alors Becker en fut le Sancho Panza.
Le messager de S.
Les exemplaires du messager de S sont prêts. Pour la distribution, un réseau complexe a déjà été prévu. L'idée de Weidig est de commencer par acheminer les paquets de Flugschrift...
Les brochures,
les tracts,
sur différents lieux. Ensuite, au signal donné, de déclencher la diffusion de manière telle, massive, coordonnée, que les autorités voyant apparaître le messager simultanément et partout ne seront en mesure de déceler aucun centre.
Le 29 juillet, quelques anciens élèves de Weidig font leur apparition à Gießen. Ils passent s'exercer au stand de tir. Là, ils font comprendre à ceux des étudiants qu'ils croisent que les Flugschrift,
les brochures,
les tracts
sont prêtes. Schütz et Minigerode font le voyage. Le départ se fait à l'aube du 30 juillet. Malgré la chaleur du plein été, les deux étudiants sont en bottes, vestes et manteaux. Dans tous ces vêtements seront dissimulés les Flugschrift à transporter.
La nuit suivante, à 2h, le juge de l'université de Gießen est réveillé par un messager à cheval qui lui transmet le billet suivant. Les étudiants de Minigerode et Schütz ont quitté la ville dans la nuit du 30 juillet et se sont rendus à Offenbach pour y chercher des tracts. Il s'agit d'un écrit révolutionnaire, le messager de S.
Le juge de l'université de Gießen est un homme de 35 ans. Il s'appelle Konrad Georgi.
après avoir récupéré ses exemplaires du messager. Minigérod se fait conduire en carriole. Une jument unique tire l'attelage.
Minigérod se sent léger. Il rentre à Gissen. On sait qu'il a fait une grosse chaleur toute la journée. Si la jument prend un peu le trot, l'air vient rafraîchir le visage de Minigérod et son corps. Minigérod voit à sa gauche le soleil décliner.
On vous attend, Karl, aux portes de Gissen. Vous ne le savez pas.
Minigérod arrive à Gissen le 1er août, en fin de journée, à 6h30. On arrête sa voiture. Minigérod descend. Il ne peut être question de s'enfuir. Il est pris. On l'escorte chez le juge Georgi. Il est pris et tous les messagers qui sont sur lui.
Dans les interrogatoires qui suivent son arrestation, Minigérod déclara avoir rencontré, dans un bout de forêt, un inconnu. C'est cet inconnu qui lui aurait remis les Flugstriff, les tracts.
Comment était-il habillé ?
Il avait, si je ne me trompe pas, une redingote verte, de la couleur de ses pantalons. Je ne me souviens pas. Il portait un petit bonnet. Les traits de son visage étaient assez grossiers, de sorte que, je dois l'avouer, j'ai presque eu peur de lui. Je vous en prie, il n'est pas nécessaire que figure dans le procès-verbal que j'ai eu peur de lui. L'homme avait un nez assez long.
Décrivez-moi l'auberge à Offenbach dans laquelle vous avez logé.
L'auberge n'est pas très loin du pont du Main. C'est à gauche quand on vient d'ici et qu'on traverse Offenbach. Je n'ai pas vu l'aubergiste. Une jeune fille m'a servi. Le soir, j'ai mangé dans ma chambre, au deuxième étage, du rôti, de la salade et du fromage suisse, et bu du vin et de l'eau, et en tout, j'ai payé un florin et quelques kreutzers. Et c'est aussi à la jeune fille que j'ai payé.
Le pont sur le Main, le fromage de Suisse, le vin, la main de la jeune fille où il dépose le florin. Le dernier soir en liberté de Minigérod, avant les années de prison, est un soir qu'il s'est rêvé, qu'il s'est inventé en guise d'alibi. Car il n'a pas dormi à Offenbach à l'auberge, il a dormi dans une ferme, la jeune fille, et, avec l'inconnu au grand nez, l'un des premiers fantômes d'une détention qui, pour Minigérod, ne fait encore que commencer, elle va durer 2 ans et demi.
Dans la nuit du 3 août, le juge Georgi reçoit à Gissen la dépêche du ministère où sont contenues de nouvelles informations transmises par Kuhl.
D'après les dépositions qui nous sont parvenues, l'étudiant Büchner de Gissen doit être l'auteur de l'imprimé révolutionnaire en question. Nous considérons qu'il est nécessaire et urgent qu'il soit arrêté aussitôt et que ses effets personnels soient mis sous scellés. Nous vous chargeons d'exécuter ces instructions sans le moindre délai.
À 5 heures, à l'aube, Georgi, accompagné d'un greffier, frappe chez Büchner. Mais Büchner n'est pas rentré chez lui. On entre, on fouille, Georgi envoie ce signalement.
Âge 20 ans, taille 6 pieds 9 pouces, en mesure de S, cheveux blonds, front très bombé, sourcils blonds, yeux gris, nez fort, bouche petite, barbe blonde, un peu au menton et faible moustache, menton rond, visage ovale. Teint frais, signe particulier, regard sombre et s'inclinant vers la terre, apparemment myope, porte parfois des lunettes, marche un peu penché d'un côté. Vêtements probables, chapeau rond noir, veste en tissu bleu, une sorte de polonaise avec des lacets sur la poitrine et le dos, pantalon non connu, bottes, allez, communes.
Büchner est de retour à Gissen dans la matinée du 5. Il apprend qu'on a fouillé sa chambre et il découvre son pupitre scellé. Il se décide alors à un coup de bluff risqué. Il se présente aussitôt devant le juge Georgi. Il exige des explications. Et le coup porte. Georgi, qui pourtant a entre les mains l'ordre express d'arrêter Büchner, est pris de doute. L'aplomb de l'étudiant ébranle sa conviction. Dans le moment, Georgi renonce à faire arrêter Büchner. Ce que dans son rapport, il justifie ainsi.
Büchner ne se serait certainement pas présenté à la convocation s'il ne s'était pas senti suffisamment sûr. Aussi ai-je osé ne pas prononcer l'arrestation qui m'avait été ordonnée.
Weidisch se décide à déclencher la distribution du messager de S. Le premier exemplaire à être officiellement signalé est trouvé le 16 août à Friedberg. C'est l'agent de police d'Abmann qu'il rapporte au tribunal du lieu. Il raconte qu'il se trouvait à causer ce matin-là vers 6h devant la maison de Sepp quand son enfant, un garçonnet de 8 ans, lui rapporte le papier trouvé derrière un volet. L'agent de police d'Abmann dit qu'il a tout vu, tout de suite, au titre qu'il s'agissait là d'une brochure interdite.
D'octobre à décembre 1834, la grande préoccupation, c'est la libération de Minigérod emprisonné. Tous,
Weidisch,
Becker,
Clem,
Büchner,
ceux de Butzbach,
ceux de Darmstadt,
travaillent main dans la main, ils amassent de l'argent, mettent en place un code pour la transmission des messages aux prisonniers, prépare la fuite qui suivrait l'évasion. Ils en viennent à concevoir ce plan. Corruption des soldats, copie des clés, descente à la corde.
On fait transmettre des messages codés aux prisonniers. Ces messages, de minuscules petits rouleaux de papier, sont cachés dans des morceaux de sucre. La dissolution des cristaux dans l'eau les révèle. Le code est basé sur les premiers vers du poème de Lenz, Die Liebe auf dem Land, l'amour à la campagne.
Par corruption d'un serviteur de l'inspecteur de la maison d'arrêt, on obtient un dessin des clés de la cellule et de la porte principale. Un dessin et une impression faites dans de la pâte à pain. Un serrurier à Gießen réalise alors 3 jeux de clés.
Quant au geôlier, une drogue mêlée d'un peu de vin ou de schnapps le mettrait hors d'état d'empêcher l'évasion. Dans ce but, August Becker se procure un flacon d'opium auprès d'un apothicaire. Celui-ci précise que toute la dose prise dans du vin ou du schnapps agira sur le sommeil et aussi sur le désir sexuel, sans porter le plus petit préjudice à la santé.
Prévue dans les moindres détails, l'évasion n'eut pas lieu en raison de la faiblesse corporelle de Minnie Gayrod.
Et puis, autre chose la rendra impossible. Que Clem trahisse.
Dans les semaines précédant sa fuite, Büchner et son frère avaient disposé une échelle au mur du jardin. Et par cette échelle, dans le cas où viendraient les sbires grand-ducales, ils pourraient s'enfuir à travers les jardins par l'arrière de la maison et disparaître. Ses parents ne sont au courant de rien encore. Il ne les préviendra que parti, la frontière française passée.
Auprès de son père, Büchner ne pouvait espérer trouver ni compréhension ni indulgence.
Ernst Büchner était membre du collège médical à Darmstadt, la plus haute instance d'État pour les affaires de santé, placé directement sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Or, ne venait-on pas de forcer à la retraite Ludwig Minnie Gayrod, président au tribunal de la cour, en raison de l'implication de son fils Karl dans l'affaire du messager ?
Le retour à Strasbourg, 1835-1836.
Strasbourg n'est pas pour Büchner une station inhospitalière. Strasbourg est le lieu où il a été heureux. Aux portes, il y a les Vosges dont il a tant aimé les formes, les brumes, les vues offertes. Et il n'est pas vraiment seul dans Strasbourg. Il retrouve ses amis, il retrouve Mina, sa fiancée, rue Saint-Guillaume.
J'ai le cœur lourd quand je me représente Darmstadt. Je vois notre maison et le jardin, et puis involontairement l'affreuse maison d'arrêt. Les malheureux, comment cela va-t-il finir ? Sans doute comme à Francfort, où les uns après les autres ils meurent et sont enterrés sans bruit. Un verdict de mort, un échafaud, qu'est-ce que cela ? On meurt pour sa cause ? Mais être usé en prison de cette façon lente. Minnie Gayrod est enfermé depuis près d'un an. On dit qu'il est presque à bout physiquement. Il paraît qu'il aurait déjà été battu plusieurs fois.
Dans les affaires politiques, il semble que Büchner, désormais, se soit tenu à distance.
Alors, dans l'arbre de très nombreuses voix, dans l'arbre qu'on a dit, celui des feuilles et des mésanges, celui des saluts distribués, de très nombreuses voix s'élèvent pour dire que Büchner, arrivé à Strasbourg, reniait l'engagement politique passé. Les commentateurs sont gênés. Vraiment. Alors Büchner renie. Dans les branches de gauche de l'arbre, c'est le silence penaud. Les petites voix se sont tues. Ce sont des pépiments de victoire dans les branches de droite. De grands hurrahs, grands cris de pie, corbeaux, Sansonnet, Hilard. La lettre du 6 avril 1833 sur l'attentat de Francfort, on peut la relire du point de vue de l'exil.
Si je n'ai pas pris part à ce qui s'est passé, et si je ne prends pas part à ce qui se passera peut-être, ce n'est ni par réprobation, ni par crainte, c'est uniquement parce que dans le moment présent, je considère tout mouvement révolutionnaire comme une entreprise vaine. J'ai appris ces derniers temps que seul le besoin nécessaire de la grande masse peut entraîner des changements, que tous les mouvements et les cris des individus ne sont que vains ouvrages de fous. Ils écrivent, on ne les lit pas. Ils crient, on ne les entend pas.
Cela ne signifie pas du tout abandon de la question politique, ni surtout abandon du peuple à son sort. Dans une autre lettre de Strasbourg, il écrit
« Je reviens du marché de l'enfant Jésus. Partout, des troupeaux d'enfants gelés en haillons qui regardent les yeux écarquillés et le visage triste, les merveilles pleines de sucre et de farine, de saleté et de papier doré qui s'empilent devant eux. L'idée que pour la plupart des hommes, les plaisirs les plus misérables sont des luxes inaccessibles m'a rendu très amer. »
Si Büchner rompt avec quelque chose, c'est avec la pose morale de l'intellectuel, révolutionnaire y compris, sa coquetterie morale, sa grimace morale.
Mais cessez de faire ces grimaces, si vertueuses, si spirituelles, si héroïques, si géniales. Nous nous connaissons, épargnez-vous la peine.
Avec la fuite en France de Büchner, au début de 1835, la Société des droits de l'homme à Darmstadt avait perdu son âme.
Oui, Mais un jeune artisan âgé d'à peine 18 ans prend alors la direction de la section.
Les polices savent bien que tout cela, sur un sol où c'est venu, peut réapparaître aussi vite que c'était parti, et que c'est un chien dent. On a mis le sol propre. Des racines sont quelque part qu'on ne voit pas.
Cette remarque, nous aurions pu la mettre à la fin de notre livre. Elle aurait fait la lueur dans la nuit qui va le fermer. C'est l'optimisme du chien dent, qui est l'optimisme légitime de toute grève. La vie revenante, même extirpée, arrachée, foulée, détruite par les meilleures polices, la vie est revenue toujours sur le sol remis propre du chien dent.
Médecine.
Dans son ouvrage paru à Paris en 1799 et intitulé « Traité du goitre et du crétinisme », François-Emmanuel Faudéré établit scientifiquement la relation existant entre l'une et l'autre de ces deux maladies. La thèse de Faudéré est la suivante. Les vallées subalpines à inclinaison peu marquée ont un taux d'hydrométrie élevé. Un taux d'hydrométrie élevé produit des goitres et les goitres font les crétins.
Je voudrais que l'on ne permît pas le mariage à un goitreux si son goitre est un peu volumineux.
Le but de Faudéré est le bonheur des hommes. Éradiquer les goitreux, éradiquer les crétins, faire le bonheur. Faudéré. Au semestre d'été 1832, lorsque Büchner était étudiant à Strasbourg, proposait un cours d'hygiène publique à l'université de médecine.
Berlin, Charlottenburg, septembre 2011.
La folie était derrière ses yeux. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus fous. Qui pouvons-nous ? Nous nous en lavons les mains. C'est peut-être mieux comme ça.
Annette V. est née à Francfort. Elle a été étudiante en philosophie et littérature à l'université d'Hanovre dans les années 1980. Elle s'est installée à Berlin au début des années 2000. Depuis lors, habite le quartier de Charlottenburg sur les bords de Spree, à deux pas du parc du château et contre les rails du ring. Elle travaille comme journaliste indépendante pour diverses revues scientifiques, écrit une thèse en philosophie. Le 29 septembre 2011, vers 14h20, deux pompiers entrent à son domicile. On vient pour l'emmener au service psychiatrique de la clinique de Schloss Park. Le médecin, qui vient de faire appel à eux et qui très bientôt fera appel à la police par surcroît pour la raison qu'Annette V refuse d'aller de gré à un nom polonais. Il est arrivé à 13h50, appelé par moi, puis est entré dans la chambre. À 14h10, Annette V, étendue, pendant que le médecin s'était retiré à la cuisine pour remplir des papiers et appeler l'ambulance, disait
« Je veux pas, je la connais leur clinique, je vais crever là-bas, je les prendrai pas leurs médicaments de merde, je le savais, je vais crever, et lui, le médecin, il appelle la police quand je ne veux pas y aller ?»
Le médecin est dans la cuisine entre 14h et 14h10. Il cherche à avoir une ambulance rapidement, aucune ne répond. Il me dit qu'il a encore 6 patients à voir. 10 minutes après, les pompiers sont arrivés et ils attendent dans le couloir face à la porte de la chambre. Maintenant, le médecin a appelé la police. Il s'en alla et appela 2 gardes supplémentaires. Quand elle les vit tous les 4, elle se moqua et demanda s'il serait assez fort pour l'emmener. Dans le long couloir attendent maintenant les 4 gardiens tandis qu'Annette V traîne interminablement pour préparer ses affaires. Elle dit, en partant, être sûre qu'elle va, comme la précédente fois, être victime de l'exacte même erreur de diagnostic. On va encore lui diagnostiquer des traits psychotiques et tout ce que cela implique, dit-elle, neuroleptique, anti-épileptique.
J'ai pas de psychose.
Dans la cour intérieure, en partant, elle apparaissait petite, entre les épaules d'un pompier à gauche et d'un policier à droite. Puis la porte du porche se referme. Pendant 2 mois qui ont précédé ce départ, dans une chambre de son appartement, celle du fond du couloir, a été écrite une partie de ce livre. Que par ce livre, le scalpel, le sang, continuellement, passe une pensée particulière de nous qui sommes partis depuis à elle, emmenée.
Strasbourg, 1835. Büchner, en décembre, a emménagé rue de la Douane, au numéro 18. Il loue une chambre chez Siegfried, négociant en vin. C'est là qu'il passe un hiver entier et un demi-printemps, attelé au travail de sa thèse d'anatomie. Büchner travaille tous les jours de l'aube à la nuit, jusqu'aux frontières du total épuisement.
Je ne veux rien que le repos. Le repos, seulement un peu de repos et pouvoir dormir.
Ce que Büchner fait dire à Lenz, dans la nouvelle qu'il écrit alors. Mais Büchner est, comme Lenz, incapable de repos. Il écrit sa thèse, il traduit deux pièces d'Hugo, il écrit Léon Séléna, il écrit Lenz, il écrit Wojtek, il écrit tout ce qu'on retrouvera dans ses affaires plus tard dans la petite chambre de Zurich.
La lettre de la mère, 30 octobre 1836.
Cher Georg, quelle joie quand ta lettre du 25 octobre avec le cachet de Zurich est arrivée, j'ai crié de joie. Car bien que nous n'en parlions pas entre nous, nous avions tous très peur et nous avions du mal à croire que tu pourrais réussir à passer la frontière. Cette affaire m'a procuré bien du chagrin en secret. Maintenant, Dieu soit loué, cela aussi s'est bien passé finalement. Ce qu'il en est ici des prisonniers, Dieu seul le sait. Tout est calme, Stil. J'espère pourtant ne plus avoir besoin de te recommander de te tenir à distance de toute activité politique. Tu te trouves maintenant en plein milieu. Tu ne vas pas te laisser contaminer, j'espère. Oh, ça me fait parfois une peur bleue. Ton père te transmet la recette d'une préparation pour ton nez. Il te prie de bien vouloir l'utiliser de manière rigoureuse et durable et de lui rendre compte des effets obtenus. Arriveras-tu à lire mon fouillis ? C'est que j'écris dans un tel tumulte que je ne sais plus trop où j'ai la tête. Grand-mère te dit bien le bonjour. Écris-lui bientôt, parce que ça lui fait plaisir. Elle est toujours très abattue, car elle ne voit presque plus. Alors adieu. Et écris bientôt à nouveau à ta fidèle mère, Caroline Büchner.
Wohl einen schweren Traum. Es wuchs in meinem Garten ein Rosmarinenbaum. Ein Kirscher war der Garten, ein Blumenbett das Grab. Und von den grünen Bäumen fiel Kron und Blute ab.
Janvier 1837, le juge Georgi est pris de délirium tremens.
Le 30 janvier 1837, Georgi, juge chargé de l'enquête contre les criminels politiques à la maison d'arrêt de Darmstadt, a invité chez lui pour la soirée une petite société d'amis. Il est pris soudain, au milieu de ses hôtes, d'une très violente crise nerveuse. Georgi étant grand et fort, il faut deux hommes pour le maîtriser, le calmer et le mener dans un lit. Il est environ 11h quand un docteur accourt enfin au chevet du furieux.
Aberratio mentalis partialis de deuxième espèce. Ses mains vont sur les couvertures, tremblantes, comme tâchant d'y attraper des petites bêtes qui courent, rampent, grouillent et qui approchent trop vers lui, s'avancent. Alors le malade dans son lit se défend, les chasse à qui mieux à mesure.
Il ne retrouve son sensorium à peu près en état qu'autour du 7 février, soit 8 jours après le déclenchement des délires. Le docteur note
« On peut considérer le sensorium comme libre, même si pas encore clair en toute chose. »
Mais Georgi a déjà repris le travail à la maison d'arrêt. Du 7 février au 23, il reste exactement 16 jours jusqu'à la mort de Weidi. Et tout ce qui s'est passé pendant ces 16 jours n'est pas éclairci.
L'ami français de Büchner, Alexis Muston, étudie au séminaire protestant de Strasbourg. Le séminaire est situé quai Saint-Thomas. Les fenêtres donnent sur le canal. C'est là aussi que travaille le petit Karl, dont il a laissé ce portrait.
Oh, l'homme a tout faire de la maison. Et un pauvre homme nommé Karl, petit, trapu, bancal. Une tête impossible, des yeux imperceptibles, une bouche incommensurable. Il a le goitre et point de menton, avec cela un peu idiot. Mais nous l'aimons tous, hein, tant il est complaisant et discret. C'est lui qui nettoie nos chaussures, arrange nos chambrettes, y porte de l'eau et du bois. Il ne possède rien et ne déroberait pas un centime.
À Strasbourg, en 1836, Büchner commence l'écriture d'un drame.
L'idiot, l'enfant, Wojtek. Karl, l'idiot tient l'enfant devant lui, sur ses genoux.
Il est tombé. Il est tombé. Allô ? Non, il est tombé. Il est tombé. Hop, hop, hop. Adada, adada.
Il s'enfuit avec l'enfant.
Les pensionnaires du séminaire étaient tous théologiens. Mais l'on sait qu'ils ont des amis nombreux en médecine. Il est difficile de croire que les étudiants auraient longtemps résisté au plaisir de montrer leur Karl au professeur Faudéré. l'auteur du célèbre traité du goitre et du crétinisme, qui enseignait à deux pas. Disons alors que François-Emmanuel Faudéré vit Karl, que Karl montra ses yeux, qu'on le fit parler un peu, que le professeur mit ses mains sur le goitre, palpa, qu'il tâta sous les cheveux la forme du crâne. Et peut-être émit un avis.
Weidisch, pasteur à Oberglen.
Weidisch, à partir de septembre 1834, est pasteur à Oberglen, un petit village. Il fait réimprimer le messager. La distribution recommence, un dimanche aux alentours du Nouvel An. Tous alors pensent à Mini Guérod. Il faut distribuer de manière à empêcher les autorités de supposer que Mini Guérod ait pu être seul responsable. Sur le conseil de Becker, ils enveloppent les Flouschkrift dans un papier sombre afin qu'elles ne brillent pas la nuit. Trop blanches, elles prendraient les rayons de la lune. On marche la nuit à travers la campagne, on passe des ruisseaux, c'est l'hiver. On s'approche des fermes prudemment, on entre dans les cours en se gardant de faire aboyer ou meugler, on entre dans les villages. Puis on glisse la brochure derrière un volet, qu'elle soit trouvée le lendemain à l'ouverture des fenêtres au commencement du jour.
La trahison de Clem.
C'est-à-dire que l'étudiant Clem fut avec Becker le seul qui ait adhéré sans réserve aux vues politiques de Büchner. On sait qu'un jour, sur la route de Gießen, il prêcha la loi agraire et le partage des terres devant un menuisier.
Regardez, quand nous aurons mis en place ce que nous voulons, tous ces champs seront divisés en parties égales et chacun, sans différence, recevra sa part.
Au début du printemps 1835, le jeune Clem tombe amoureux d'Emily von Grollmann. Celle-ci n'est rien moins qu'une des filles de von Grollmann, longtemps premier ministre de Hesse-Darmstadt. Si Clem veut prétendre sérieusement à la main de la jeune fille, il lui faut pouvoir montrer au plus vite des revenus stables et décents et des idées politiques plus justes. Or, Clem dut sentir que la pression judiciaire était en train de monter et que si un moyen existait encore pour se sauver soi, il fallait s'en saisir vite. S'il fallait jamais oser ce moyen, alors maintenant.
Cool, le premier dénonciateur, avait trahi comme à la légère à l'occasion. Clem va trahir totalement, méthodiquement, jusqu'au bout. Il ne va pas se contenter d'aller donner les noms de tous, les noms de ses amis même. Il va, d'accord avec le juge Georgi, mettre ses amis dans des pièges pour que la justice les prenne mieux. Alors, ce pacte avec Georgi, certains le qualifient simplement d'infâme. Il aura les conséquences suivantes, 50 arrêtés, certains emprisonnés pour plusieurs années, et deux, Weidisch et l'apothicaire Trapp, morts en prison.
Mais Büchner se trompe dans ses prévisions lorsque dans une lettre il écrit que
« Clem ne pourra pas obtenir ce qu'il veut et le mépris public le tuera ».
Clem ne mourut qu'en 1866. Industriel fortuné. Et quelques mois seulement manquèrent pour que puissent être célébrées entre Emini von Grollmann et lui des noces d'argent.
Le 5 novembre 1838, alors que Büchner et Weidisch tous deux sont morts depuis presque 2 ans, a lieu au tribunal de Gießen le procès collectif contre 30 accusés. Des peines de prison jusqu'à 10 ans sont prononcées.
August Becker, 9 ans. Karl Zeuner, élève de Weidisch, 9 ans. Faber et Schneider, les deux artisans de la Société des droits de l'homme de Gießen, 8 ans. Flick, le pasteur de Peter Weil, ami de Weidisch, 8 ans. Gladbach, 8 ans et demi.
Mais en 1839, la grâce tombe. Par décision même du grand-duc, les condamnés sont amnistiés.
On peut s'étonner de cette grâce. Il faudra en connaître les motifs précis. Qu'on juge seulement que début 1839, quand elle est accordée, le but de la répression est atteint. L'opposition politique en Hesse est à terre, démolie.
Et pour beaucoup les plus impliqués, la grâce n'est accordée qu'à cette condition explicite, l'Amérique.
2 avril 1853, rade de Liverpool. Becker arrive en barque sur le Great Western. Le navire a déjà quitté le port. Il est à l'ancre au large et attend pour partir des vents moins violents. Le lendemain, le voilier quitte les côtes d'Angleterre. Becker devient bientôt le conseiller et le porte-parole des passagers les plus démunis. Prend sous sa protection autant qu'il peut des Irlandais sans le sou, galeux, pouilleux, qu'il tâche de préserver des manigances d'autres, notamment d'un groupe d'une quarantaine de types qui sur le bateau détroussent les passagers. Becker s'installe à Baltimore. Là vivent plusieurs centaines d'Allemands originaires de l'arrière-pays essois, la région de son enfance. Il travaille pour le journal allemand Der Wecker. En 1856, il passe à Cincinnati, Ohio, autre ville à forte concentration allemande. Il s'occupe du Orwächter, l'un des journaux allemands les plus importants d'Amérique. Commence alors son engagement dans la lutte contre l'esclavage.
Mars 1835. Weidisch refuse de fuir.
Le 24 mars 1835, on avait appris par une parente de Minnie Gerod qu'on préparait à la prison de Gießen une cellule pour Weidisch. On prévient à Auguste Becker. Celui-ci se met aussitôt en route. Il va trouver Weidisch à Oberglen.
Weidisch se décide au départ. Il fait savoir à deux de ses élèves qu'il les attendra le lendemain. Il faudra qu'ils aient, de leur côté, trouvé une voiture. Weidisch est au rendez-vous. Une voiture est là. Il monte. C'est le départ. Weidisch part. Le voilà parti.
Mais quelques jours plus tard, il est de retour. Il revient sur sa décision. Il dit « C'est trop honteux de s'en aller. Je veux être à Oberglen avant dimanche. »
C'est du bruit vide. On veut m'effrayer. Ils n'oseront pas.
Un ami, un avocat de Gießen, tente à nouveau à la mi-avril, lors d'une visite à Oberglen, de convaincre Weidisch qu'il faut fuir. On a même trouvé un poste pour lui en Suisse dans une école.
Mais Weidisch ne veut pas partir. Il répond qu'il est en sûreté, qu'il ne lui arrivera rien et que sa femme doit mettre au monde un enfant bientôt.
Je te le dis, mon garçon, ils n'oseront pas.
L'ami, venu tout exprès, insiste.
Weidisch répète qu'il est en sûreté, qu'il ne lui arrivera rien.
Le 22 avril, le premier ministre de Hesse transmet l'ordre d'arrêter le pasteur Weidisch pour diffusion d'écrits politiques au contenu illicite. Clem, la veille, est passé aux aveux.
Le responsable du district reçoit l'ordre d'arrestation le 23 à midi. La nuit suivante, la maison du pasteur est encerclée par des gendarmes. Pour ne pas réveiller les gens et ne pas risquer de rencontrer leur opposition, chaque gendarme a enveloppé dans du drap les quatre sabots de son cheval. À l'aube, entre 4 et 5 heures, Weidisch est arrêté. Une lettre de dénonciation adressée au responsable du district prétendra que la moitié de la population d'Oberglen est rebelle et veut voir son pasteur hors de geôle. On lit dans cette lettre...
Le principal rebelle a dit que si le pasteur était arrêté une nouvelle fois, ça se passerait pas comme ça. Et un autre aussi, il a dit qu'il voudrait bien voir le diable venir arracher les boyaux de la panse de celui-là qui serait cause que le pasteur soit arrêté.
Maison d'arrêt de Darmstadt, cellule numéro 32, 24 février 1837.
On trouva sur le sol, derrière la tête de lit, une cravate encore nouée, laquelle était tachée de sang encore humide. Sur le mur, il y avait cette inscription sanglante, c'est-à-dire écrite avec du sang, dont le contenu est...
Parce que l'ennemi m'interdit toute défense. Je me choisis une mort honteuse, libre mort. Weidisch.
En tant que membre du collège médical du Grand-Duché de Hesse, le docteur Ernst Büchner aurait dû prendre part à l'autopsie du corps de Weidisch à la maison d'arrêt de Darmstadt. Mais ce jour-là, le docteur Ernst Büchner est empêché et prie qu'on excuse son absence. Son fils aîné est mort à Zurich, 4 jours plus tôt.
Chaumière, guerre au palais. Cette année, on veut faire mentir la Bible. On veut lui faire dire que Dieu a créé les hommes le 5e jour et les riches le 6e jour. Et que le Seigneur a dit aux riches, « Allez-y, régnez sur toutes ces bêtes qui rampent à vos pieds. » La vie des riches est un long dimanche. Ils vivent dans de grandes maisons, ils portent de jolis habits, ils ont de nobles visages et parlent une belle langue. Mais le peuple gît à terre devant eux, comme la boue dans les champs. On extorque au nom de l'État. Les extorqueurs en appellent au gouvernement et le gouvernement dit « Cela est nécessaire pour maintenir l'ordre dans l'État ». Mais qu'est-ce que l'État ? Quand des gens habitent dans un pays et qu'ils doivent se conformer à des lois, on dit qu'ils forment un État. L'État, c'est donc tous. Les lois doivent assurer le bien-être de tous. Voyez maintenant ce qu'on a fait de l'État. Voyez ce que veut dire maintenir l'ordre dans l'État. C'est l'ordre qui fait de vous des bêtes de somme. C'est l'ordre qui vous fait crever de faim. La loi est la propriété d'une minuscule classe de riches et de savants qui s'octroient le pouvoir. Leur justice n'est qu'un moyen de maintenir l'ordre afin qu'on puisse vous écarrir plus tranquillement. La justice est la putain des princes. Chaque pas que vous faites vers elle, vous devez le pavé d'argent. C'est avec votre pauvreté et votre humiliation que vous achetez vos sentences. Pensez à vos courbettes devant les bureaux des administrations et au temps que vous passez à attendre, debout, devant eux. Aussi loin que porte le regard du tyran, terre et peuple se dessèchent. Mais le jour de la résurrection est proche. Le champ de cadavres se mettra en mouvement et un bruissement se fera entendre. Et les ressuscités formeront une grande armée. Ouvrez les yeux. Vos maîtres tirent leur force du sang qu'ils aspirent de vos veines. Ils vous menacent de leurs armures et de leurs épées, mais je vous le dis, qui lève son épée contre le peuple périra par le peuple. Vous avez passé votre vie à creuser la terre, alors maintenant, creusez la tombe des tyrans. Vous avez construit leurs cachots, alors maintenant, détruisez-les. Et construisez la maison de la liberté. Veillez et armez-vous en pensée. Priez et apprenez à vos enfants cette prière. Seigneur, brise la trique de nos meneurs de troupeaux. Laisse ton royaume venir à nous, le royaume de la justice. Amen. Le messager de Hesse, juillet 1834.
Georg Büchner, Le scalpel, le sang, biographie générale, de Frédéric Metz, adapté pour la radio par Irène Bonneau, musique originale, Quentin Sirjac, avec les élèves de l'École du Théâtre National de Bretagne, Georges Slovic, Leslie Bernard, Julien Derivaz, Adèle Zouane, Mathias Jacquin, Chloé Maniscalo et Hector Emmanuel. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Pierre Henry. Sonorisation, Benjamin Thuau. Coordination technique, Guillaume Rialan. Conseillère littéraire Laurence Courtois, assistante à la réalisation Clémence Grosse, réalisation Alexandre Planck. Georg Büchner, Le scalpel, le sang, biographie générale, est publié aux éditions Poncerque.